Vous êtes toujours sur FPP 106.3 FM Voix du Texte, l'émission qui rend la parole au texte en volant la parole à leurs commentateurs.
Il a eu des vacances. 15 jours et payé.
Itinéraire incarné en écrit.
Hiver.
Quelle chaleur. Je voudrais m'enfuir de moi.
Hiver. Saison des tracas de la nature. Saison de misère. Saison de la froidure et des pieds gelés. Saison de l'attente. Saison de la terre que l'on ne peut briser. Saison des vents qui gercent et qui coupent la peau.
L'un de nous deux sera le festin des chiens.
Eh bien, voilà, ayant vécu dans bien des endroits, et sous des climats différents et dans des conditions différentes, je me trouve à présent prié de donner mon impression sur mes chefs-d'œuvre dans un décor de chaise électrique. Mais ça ne va pas me troubler du tout, et je vais dire tout ce que j'en pense, et personne ne m'empêchera de parler.
Le départ pour l'Angleterre. M'entends-tu, bordel? Il me fait chier même complètement. Ça, c'est assez clair. T'es encore plus con que les autres. Et vous faites tout chier encore plus. Vous m'entendez? Tous! Il soufflait des jets de vapeur. Les mots explosaient à la fin.
Sera le festin des chiens.
Alors, tu veux bien dire? Quoi? Mais qu'il s'en aille, cet enfant. Qu'il nous laisse un peu souffler, qu'on reste tous les deux. Tu ne veux pas? Ah, ça non, ah non, pas encore, nom de Dieu, non, pas encore! Mais voyons, Auguste, réfléchis. Si tu meurs de te faire du chagrin, à quoi ça nous avancera? Mourir, moi? Oh là là, la mort! Oh, mais je ne demande que ça, moi! Mourir vite! Oh là là! Alors tu parles comme je m'en fous. Mais c'est ce que je désire, moi, la mort. Oh, nom de Dieu! Il se dépêtre, il se décroche du cou, il renverse ma mère Clémence. Le revoilà debout à rebrailler. Il n'avait pas pensé à ça. La mort, nom de Dieu, sa mort! Le voilà reparti en belle transe. Il se donne tout entier, il se requinque, il se relance vers l'évier. Il veut boire un coup, tara, vlac, il dérape, il carambole. Il va glisser des quatre fers, il plonge dans le buffet, il rebondit dans la crédence, il braille à tous les échos. Il s'est bigorbé la trompe, il veut se rattraper. Tout le bazar nous flanche sur la gueule. Toute toute la vaisselle, les instruments, le lampadaire. C'est une cascade, une avalanche. On reste écrasés dessous. On se voit plus les uns les autres. Ma mère crie dans les décombres. « Papa, papa, où es-tu? Réponds-moi, papa !» Il est étalé tout son long à la renverse. Je vois ces godasses qui dépassent sur les carreaux de la cuisine, les rouges cicatifs. « Papa, réponds-moi, dis, réponds, dis, mon chéri. »« Merde, je serai jamais tranquille! Je vous demande rien, bordel de Dieu !»
L'un de nous deux sera le festin des chiens.
Le chagrin est venu quand même d'une façon pire que j'aurais cru au moment de partir. C'est difficile de s'empêcher. Quand on s'est trouvés tous les trois sur le quai à la gare du Nord, on n'emmenait pas large. On se retenait par les vêtements, on essayait de rester ensemble. Dès qu'on était dans la foule, on devenait timide, furtif. Même mon père, qui gueulait si fort au passage dehors, il perdait là tous ses moyens. Il se ratatinait. C'est à la maison seulement qu'il remuait la foudre et les tonnerres. À l'extérieur, il rougissait, on le remarque. Il regardait à la dérobée. C'était une audace singulière qu'on m'envoie si loin. Tout seul, comme ça. On avait la trouille subitement. Ma mère, qui était la plus héroïque, elle a cherché des personnes qui s'en allaient de mon côté. Personne connaissait Rochester. Je suis montée retenir ma place. On m'a recommandé encore toutes les choses indispensables. La prudence la plus extrême, de ne pas descendre avant l'arrêt, de jamais traverser la voie, de regarder de tous les côtés, de ne pas jouer avec la portière, de redouter les vents coulis, de rien attraper dans les yeux, de me méfier aussi du filet des bagages, que ça vous assomme dans les tamponnements.
Bateau mouche et patati, je les découvre pas. Tous les dimanches dans ma jeunesse, pour ma mine, nous le prenions au pont royal, le ponton le plus proche. 5 sous aller et retour, sur Rennes. Sitôt avril, tous les dimanches, pluie, pas pluie, chérie de môme en l'air. Tous les mômes des quartiers du centre. J'étais pas le seul papier mâché. Et les familles, la cure. Ah, la cure, ça s'appelait, sur Rennes et retour. Bol d'air plein vent, 25 centimes. C'était pas la croisière tranquille.
Quelle chaleur! Je voudrais m'enfuir de moi. Bonjour.
Bonjour.
Du frais?
C'est difficile. J'ai pas été livré, les pneus ont fondu. Les salauds. J'ai ce jus d'abricot. D'exposition. Il est chaud.
C'est tout?
Oui.
Le jus. Monsieur, votre jus fait roter. Chaleur, je voudrais m'enfuir de moi.
Vous êtes toujours sur FPP 106.3 FM. Aujourd'hui, l'émission Voix du texte est dédiée au thème du voyage.
Lorsque le général fut parti en se frottant l'épaule, Rainsford se mit à fuir à nouveau. C'était maintenant une fuite sans espoir qui le porta pendant plusieurs heures. Le crépuscule vint, puis l'obscurité. Il continua. Le sol se fit plus meuble sous ses mocassins, la végétation se fit plus dense, plus humide, les insectes le piquaient sauvagement, Puis, en faisant un pas, son pied enfonça dans une vase lourde. Il essaya de l'arracher violemment, mais la fange l'aspirait vicieusement comme une sangsue géante. Avec un effort violent, il libéra son pied. Il savait désormais qu'il était arrivé au marécage de la mort et au sable mouvant. Ses mains étaient crispées comme tentant de retenir son sang-froid qu'on essayait dans l'obscurité de lui arracher. La terre molle lui donna une idée. Il s'éloigna des sables mouvants d'environ 3 mètres et commença à creuser comme un castor. Rainsford avait creusé des tranchées durant la Grande Guerre en France, où chaque seconde était vitale. Dans sa frénésie présente, ses efforts d'alors lui paraissaient placides. Le trou s'approfondissait. Lorsque le bord du trou lui parvint aux épaules, il en sortit et tailla des pieux aiguisés dans un bois dur. Il les planta au fond du trou, les pointes en l'air. Il tressa ensuite un tapis de branchages et de feuilles dont il recouvrit le trou. En nage, endolori de fatigue, il s'accroupit derrière le tronc noirci d'un arbre calciné par la foudre. Il savait que son poursuivant arrivait. Il entendit le bruit amorti de ses pas sur la terre souple et sentit sa cigarette parfumée. Il sembla à Rainsford que le général s'approchait rapidement. Il ne cherchait plus son chemin pas à pas. D'où il s'était accroupi, Rainsford ne pouvait voir ni le général ni le trou. Une année entière s'écoula dans cette minute d'attente. Puis il eut l'envie subite de crier sa joie quand il entendit la couverture de branchages se rompre. Il entendit un cri de douleur et bondit de sa cachette. Immédiatement, il se cacha à nouveau dans l'ombre. Au bord du trou, un homme se tenait une lampe électrique à la main.
« Bravo, monsieur. Votre espèce de piège a eu raison de l'un de mes meilleurs chiens. Nous verrons maintenant comment votre génie se comporte face à la meute tout entière. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne nuit. Merci pour cette soirée, vraiment. »
À l'aube, allongé près des marais, Rainsford fut réveillé par un bruit qui lui fit comprendre qu'il ne savait pas tout de la peur. C'était un bruit encore lointain, vague et ondulant, mais il connaissait ce bruit, les aboiements d'une meute. Rainsford avait le choix entre le suicide certain de l'attente et la fuite qui ne faisait que retarder l'inévitable. Un instant, il resta debout à songer. Une idée qui n'offrait qu'une chance ténue lui vint. Il serra sa ceinture et quitta les marais. Les aboiements de la meute se rapprochèrent encore et encore. Sur une crête, Rainsford grimpa dans un arbre. En contrebas d'un torrent, à moins de 400 mètres, il vit bouger les buissons. En scrutant des yeux, il vit la silhouette élancée du général Zaroff. Devant celui-ci, Rainsford distingua une autre silhouette dont les larges épaules émergeaient des hautes herbes de la jungle. C'était Ivan, qui semblait tiré par une force invisible. Rainsford sut qu'il tenait la meute en laisse. Il le rejoindrait maintenant d'une minute à l'autre. Rainsford réfléchissait, fébrilement. Un piège indigène appris en Ouganda lui revint en mémoire. Il descendit de son arbre. Il saisit un jeune arbre encore flexible auquel il attacha son couteau de chasse, le pointant vers le sentier par lequel venaient ses poursuivants. Il ploya l'arbre et l'attacha avec une liane, puis il s'enfuit. Les chiens aboyèrent de plus belle lorsqu'ils sentirent sa trace récente. Rainsford connut alors le sentiment qu'éprouve l'animal traqué. Il s'arrêta pour reprendre son souffle. Les aboiements des chiens s'arrêtèrent soudainement. Il devait être arrivé à son couteau. Excité, il grimpa dans un arbre et regarda vers ses poursuivants. L'espoir qu'il nourrissait s'évanouit quand il vit le général Zaroff debout. Il ne vit pas Ivan. Le couteau, propulsé par l'arbre bandé, n'avait pas totalement failli. Rainsford avait à peine touché le sol que les aboiements reprirent. « Du sang-froid, du sang-froid, du sang-froid » octa-t-il en courant. Dans les arbres devant lui apparut une trouée bleue. Les chiens se rapprochaient. Rainsford était tendu vers cette trouée. Il l'atteint, c'était la grève. De l'autre côté d'une baie, il distingua les pierres grises du sinistre château. 7 mètres en contrebas, la mer grondait et crachait. Rainsford hésita. Il entendit les chiens et plongea le plus loin qu'il put dans la mer. quand le général et la meute atteignirent la grève, ils s'arrêtèrent. Pendant quelques minutes, le général scruta la surface de la mer bleu-verte, puis il haussa les épaules. Il s'assit, but une gorgée de cognac d'une flasque en argent, alluma une cigarette et chantonna un aria de Madame Butterfly. Le général Zaroff fit un excellent dîner ce soir-là. Il but une bouteille de champagne et une demi-bouteille de chambertin. Deux légères contrariétés l'empêchaient néanmoins d'être parfaitement heureux. Il lui serait difficile de remplacer Ivan, et sa proie lui avait échappé. Bien sûr, l'Américain n'avait pas joué le jeu, pensait-il, en buvant une liqueur. Dans la bibliothèque, il lut pour se calmer quelques pages de Marc Aurèle. À 10 heures, il monta dans sa chambre. Il était délicieusement fatigué, pensa-t-il en fermant la porte. Il y avait dehors un clair de lune. Sans allumer de lumière, il se dirigea vers la fenêtre et regarda dans la cour. Il vit ses grands chiens et leur cria
« Nous aurons plus de chance la prochaine fois. »
Et il alluma ensuite la lumière. Un homme se tenait là.
« Reinford ? Mais comment êtes-vous parvenu jusqu'ici ? À la nage ? Bravo ! Vous avez gagné la partie. »
Reinford ne sourit pas. « Je suis encore une bête dangereuse, » dit-il d'une voix basse et rauque. « Préparez-vous, général Zaroff. » Le général Zaroff s'inclina profondément.
« Alors l'un de nous deux sera le festin des chiens, et l'autre dormira dans cet excellent lit. En garde, cher monsieur. »
Jamais je n'ai dormi dans un meilleur lit, pensa Reinsford.
La nuit arrive. Nous partons. Nous fuyons le village où les franquistes emprisonnent, fusillent, torturent. Ma grand-mère, mes tantes, des voisins savent qu'il faut atteindre les lignes républicaines. Le salut. Nous marchons dans les labours. Chaque sillon me demande un effort. Mais bientôt tu verras ton père. Ah, c'est sûr, on va nous voir. Je ne sens plus mes jambes ni mes pieds. Je ne sens que ma peur qui va m'étouffer. Quand soudain, un bruit d'ailes surgit d'on ne sait où. Oh, cette fois-ci, nous serons découverts. Oh, mon Dieu, que c'est bruyant, un battement d'ailes dans le silence de la nuit. Nous marchons. Il fait froid. J'ai mal partout. Ne pas pleurer. Ne pas se plaindre. En attendant, les enfants, eux, n'en peuvent plus. Certains commencent à gémir. Quand se présente dans cette plaine sombre la silhouette d'une cabane de berger. Je me couche dans la paille, comme les autres enfants. Épuisée. Je sens l'odeur de la paille un peu moisie. Et aussi l'odeur d'une fumée âcre qui racle la gorge et irrite les yeux. Car les femmes ont fait du feu. Les enfants ne tiendront pas si on ne les réchauffe pas. Il paraît que j'ai dormi. Comment peut-on dormir quand on a si peur ?
Entends-tu, bordel ? Il me fait chier même complètement ! M'entends-tu, bordel ? Il me fait chier même complètement !
Je suis habillée d'un pantalon jaune avec des grandes fleurs. C'est la première fois que j'en porte un et j'ai l'impression d'enfreindre un interdit en le mettant. Il faut pas que tu montes tes jambes, me dit ma mère entre autorité et protection. À nos pieds, nos valises attendent. Bourra a craqué de tous nos vêtements. Nous partons pour une durée indéterminée. Nos billets sont un aller simple.
À la demande de sa mère, Bernard éteignit le poste de télévision. Le présentateur du journal de 13h se fondit en un point lumineux et disparut. Elle ne quittait pratiquement jamais ce fauteuil dans lequel, 20 ans plus tôt, elle avait appris la mort de son mari.
M'entends-tu, bordel ? Il me fait chier même complètement !
Seul, l'enfant qui distendait son ventre lui avait interdit alors de se laisser mourir. Dès que Bernard vint au monde, elle s'en désintéressa et vécut en recluse dans les trois pièces de la rue Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Elle ne s'approchait jamais de la fenêtre pour ne pas apercevoir trois étages plus bas les marches de l'escalier où, un matin d'octobre 1961, on ramassa le corps de son mari.
Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, tous derrière. C'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant.
Le crachat. Le crachat. Le crachat. Le crachat. Le crachat.
À la sortie de la maternelle, j'ai essuyé le crachat d'un monsieur qui voulait faire payer à la petite Nyakwe le fait que son fils combattait en Indochine. Vous, ma mère, vous compreniez cet homme. N'étions-nous pas partis de là-bas justement parce que mon père, né français, était désormais menacé s'il restait chez vous en Indochine? Vous aviez été arraché à votre pays, à votre culture, à votre famille pour suivre le destin de votre époux. À 27 ans, vous ne connaissiez rien de la France ni de la langue française. Vous plongiez dans l'inconnu, entouré de vos 7 enfants dont le dernier n'avait que quelques mois. Vous vous êtes battu, vous vous êtes défendu. Vous nous avez protégés. Aujourd'hui, je vous vois si faible, si détaché de la vie. Une ombre qui parle à mon ombre. Mère, je vous dois tout. Et je ne sais comment vous rendre tout ce que vous m'avez donné.
Itinéraire, incarné en... Escale lasse, l'étape étale en atoll clos. Croisée des distances arides, astreinte à ce cadastre concocté. Coïncidence des arrière-saisons, décroissante en Occident. Teinte née tôt en Est, sa poussée en suspens passe, s'épanouissant, puis s'épuise au ponant. Accès ses camps, espaçant ses aspects passés, à cap épaté ses étapes sapées, pendant adapté à ses pensées épatées, attente dépassant ses étapes passées. Naguère inauguré en genèse sanguinaire, âge égrené à engrenage gangréné, grimaçant à minima garantie, magma tirant à catimini criant. Assistant au matin, s'anima à main gain, mais minuit mugissant stigmatisa sa nuit. Ainsi, l'instant jaillissant, ta à ta installa l'an.
Les deux moutons reculèrent effrayés lorsque la mobylette quitta le chemin et vint s'immobiliser au bord du terrain qui leur servait de pâture. Anouit maintenait le ralenti en relançant le moteur de temps à autre. Il porta l'index et le majeur de sa main libre à la bouche, siffla longuement, puis il fit signe au jeune garçon de venir près de lui.
Il faut que tu rentres tout de suite.
Et mes moutons?
Que veux-tu qu'ils fassent? Qu'ils se jettent dans la Seine?
Et mes moutons ?
Chronomètre actionné. Yeah, processus enclenché. Cinéma, le monde entier explosé. Un dernier jour sur terre à passer. Y'a quoi?
Senta, non, senta, non. Là, ça est légal. Senta. Donc, t'es que dansando.
Itinéraire, incarné en écrit. Itinéraire incarné en écrit.
New York. D'abord, j'ai été confondu par ta beauté. Ces grandes filles d'or aux jambes longues, si timides d'abord, devant tes yeux de métal bleu, ton sourire de givre. Si timide. Et l'angoisse au fond des rues à gratte-ciel. Le vent des yeux de chouette parmi l'éclipse du soleil. Sulfureuse ta lumière. Et les fuites livides dont les têtes foudroient le ciel. Les gratte-ciel qui défient les cyclones sur leurs muscles d'acier et leur peau patinée de pierre.
Voix du texte. Aujourd'hui, l'émission est dédiée au thème du voyage.
Please take that off the turntable. I'm a very busy disc jockey. Now go away. Hello, it's me again. Pin back your ear holes and listen to this lot.
Titties.
Céline, l'arrivée à New York. Pour une surprise, c'en fut une. À travers la brume, c'était tellement étonnant ce qu'on découvrait soudain que nous nous refusâmes d'abord à y croire. Et puis tout de même, quand nous fûmes en plein devant les choses, tout galérien qu'on était, on s'est mis à bien rigoler, en voyant ça, droit devant nous. Figurez-vous qu'elle était debout, leur ville, absolument droite. New York, c'est une ville debout. On en avait déjà vu, nous, des villes, bien sûr, et des belles encore, et des ports, et de fameux même. Mais chez nous, n'est-ce pas ? Elles sont couchées, les villes. Au bord de la mer ou sur les fleuves, elles s'allongent sur le paysage. Elles attendent le voyageur. Tandis que celle-là, l'américaine, elle ne se pâmait pas. Non, elle se tenait bien raide. Là. Pas baisante du tout. Raide à faire peur.
And schism. Somebody who taught us a right the rhythm. See? Live and direct this year, watch all the human complex up and get here, they see? Watch me.
On en a donc rigolé comme des cornichons. Ça fait drôle, forcément, une ville bâtie en raideur. Mais on n'en pouvait rigoler, nous, du spectacle, qu'à partir du coup.
à cause du froid qui venait du large pendant ce temps-là, à travers une grosse brume grise et rose et rapide et piquante à l'assaut de nos pantalons et des crevasses de cette muraille, les rues de la ville, où les nuages s'engouffraient aussi à la charge du vent. Because they rhythm it, oh rhythm it, nice rhythm it, we rhythm it, shit. Cause on some of them are bigger than most and them don't know how to fit, shit. Cause they cooler than ice, cooler than they not cool. Cause they want to contest their rule white, but them just can't do it. Only if they want to tackle, but they want to be impressed. But they know that they have to cut a rule white, come in life and direct. Cool. Wada da, wada da da da, wada da. Wa-da-da, wa-da-da-da-da, wa-da-da. Notre galère tenait son mince sillon jusqu'au ras des jetées, là où venait finir une eau caca, toute barbotante, d'une kyrielle de petits bachots et remorqueurs avides et cornards. Pour un miteux, il n'est jamais bien commode de débarquer nulle part. Mais pour un galérien, c'est encore bien pire. Surtout que les gens d'Amérique n'aiment pas du tout les galériens qui viennent d'Europe. C'est tous des anarchistes, qu'ils disent. Ils ne veulent recevoir chez eux, en somme, que les curieux qui leur apportent du pognon. Parce que tous les argents d'Europe, c'est des fils à monsieur dollars. J'aurais peut-être pu essayer, comme d'autres, de traverser le port à la nage et puis, une fois au quai, de me mettre à crier « Vive dollar, vive dollar !» C'est un truc. Il y a bien des gens qui sont débarqués de cette façon-là et qui, après ça, ont fait des fortunes. Mais pas sûr, ça se raconte, seulement. Il en arrive dans les rêves des bien pires encore. Cause some of them big, some of them small, some of them are them, them kinda sweet. Some of them girls, them know what it is, them just a look at the talk I eat. Cause they want to be nice, want to be sweet, want to be now and everywhere. Cause me sit on the top of their wrist and I know they just don't care. Because they want to be this, want to be this, want to be the know I like or that. Cause they know that the talk I you may just a move for this spot. Wa-da-da, wa-da-da-da-da, wa-da-da. Wa-da-da, wa-da-da-da-da, wa-da-da. Moi, j'avais une autre combinaison en tête, en plus de la fièvre. À bord de la galère, ayant appris à bien compter les puces, pas seulement à les attraper, mais à en faire des additions et des soustractions, en somme des statistiques, métier délicat qui n'a l'air de rien, mais qui constitue bel et bien une technique. Je voulais m'en servir. Les Américains, on peut en dire ce qu'on voudra, mais en fait de technique, c'est des connaisseurs. Ils aimeraient ma manière de compter les puces jusqu'à la folie, j'en étais certain, d'avance. Ça ne devait pas rater, selon moi. Anatole le Braz, les villes englouties. Des marins de Douarnenez pêchaient une nuit dans la baie, au mouillage. La pêche terminée, ils voulurent lever l'ancre. Mais tous leurs efforts réunis ne purent la ramener. Elle était accrochée quelque part. Pour la dégager, l'un d'eux, plongeur, se laissa couler le long de la chaîne. Quand il remonta, il dit à ses compagnons: devinez dans quoi était bloquée notre ancre. Et dans quelque chose. Non, dans les barreaux d'une fenêtre. Les pêcheurs crurent qu'il était devenu complètement fou. Oui, poursuivit-il. Et cette fenêtre était une fenêtre d'église. Elle était illuminée. La lumière qui venait d'elle éclairait au loin dans la mer profonde. J'ai regardé par le vitrail, il y avait foule dans l'église. Beaucoup d'hommes, et de femmes, avec des riches costumes. Un prêtre se tenait à l'autel. J'ai entendu qu'il demandait un enfant de cœur pour lui répondre à la messe. Mais c'est pas possible, s'écrièrent les pécheurs. Je vous le jure. Il fut convenu qu'on irait raconter la chose au recteur. Ils y allèrent, en effet. Le recteur dit au marin qui avait plongé : Vous avez vu la cathédrale 10. Si vous vous étiez proposé au prêtre pour lui répondre sa messe, la ville 10 tout entière serait ressuscitée des flots et la France aurait changé de capitale.
À ceux qui partent pour oublier leur maison et le mur familier aux ombres, j'annonce la plaine et les eaux rouillées, et la grande Bible des pierres. Ils ne connaîtront pas, à part le fer et le jasmin des formes, la nuit heureuse de transporter les mondes, l'âge dans le repos comme une sève. Pour eux, nul chant, mais la rosée brûlante de la mer, mais la tristesse éternelle des sources.
J'ai vu New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut New York, New York USA.
L'homme est au milieu du monde. Les trains sifflent sur les ponts, au devant des fougères. Un nuage parfois chancelle. Bascule hors de l'horizon. La terre est debout. La terre s'élance et toujours s'ouvre plus grande. Mille vaisseaux craqués à son flanc pendent, aspergent l'éveillé qui tremble, se heurte aux arbres, va et pense. Il descend dans les vallées, il sent ses jarrets frémir. Son chien l'entraîne, triomphe, compagnon de son désir. Tout est en place dès l'aube, l'homme est au milieu du monde. Il s'oriente, il est d'ici, il se souvient de lui-même. Et tant de fois cependant il est passé sans nous voir, près de nous les mauves, près de nous les mantes, et tant de fois en sarrau noir s'est promené sans être vu dans son sommeil l'enfant qu'il fut. Mais aujourd'hui la mésange, le hoche-queue, l'inquiète mouette aussi, au fond des moulins perdus emplissent son pas, son cœur. Il va, il pense. Les collines noisetières le suivent tendrement de l'œil. Il caresse un tronc, il rêve à des amis qu'il va voir. L'acier, le cuivre, les marteaux sont au-dedans de l'homme. Il les range quand il faut et sort saluer les arbres. Les paquebots sont en marche partout dans l'univers. Des faisceaux de vie se nouent à chaque heure du jour. Il faut marcher dans le ciel, dans la mousse, dans l'écume, où vont les ailes, la roue et l'hélice fraternelle, être partout où la joie rencontre son espoir fidèle, où l'enfance capte un rêve qui se ranime à sa voix.
Mais il y a des pays qui n'ont pas de nom dans ma mémoire, des gares où j'ai perdu 2 heures pour attendre un train, des villes qui ne sont que passages d'arbres flottés sur leurs fleuves. Un désert d'entrepôts dans un port qu'empli une futaie l'hiver, de hauts réservoirs dans la montagne, des villages de soleil et de froment, une région de fontaines bruissantes, je ne sais où, sans carte, en automobile, et que je n'ai jamais retrouvée, des chemins de crête poudroyants de lumière, et dans la pique des rocs, cette chapelle d'ombre où Charles Quint s'humilia. J'ai voulu connaître mes limites, et ce n'est pas assez de Brocéliande ou d'Uncinène, de la forêt noire et de l'océan, car j'ai dans mes veines l'Italie et dans mon nom le raisin d'Espagne. Est-ce que je ne suis pas sorti de ce domaine de cerises? Où est ma place? Est-elle avec ce passé des miens? Femme de chez nous, le pied court et la jambe haute, les petits cheveux bouclant sur la nuque dont vous étiez si fier, avec sous la peau blonde et transparente, oh Lyon, le sang lombard des billions. Et le goût des pleureuses a dramatisé la parole, où roule cet écho profond de l'oraison funèbre, cette voix d'hier douce et voilée, de Jean-Baptiste Massillon au salin d'hier. Est-ce que j'appartiens encore à ce monde ancien? Où est la clé de tout cela? Je vais et je viens, faut-il toujours se retourner, toujours regarder en arrière? J'ai traversé, retraversé l'Europe, et je traînais dans mes bagages quelques livres couverts de feu qui venaient du quai de Jemmapes, comme c'était écrit dessus. Il parlait d'un pays la moitié de l'année enfoui dans la neige, avec le vent qui siffle à travers les maisons de bois, les péristyles à colonnes des demeures nobles, les palissades des chantiers beiges grises dentelées, tout un peuple dans les haillons d'un empire veillant, coupant en deux ses cigarettes, le fusil entre les mains de chaque homme, les journaux muraux. Et la débâcle et les chansons. Mais tout ce qu'il disait, ses bouquins au parfum d'interdit, il le disait dans un langage austère et grisant comme un renoncement des poètes, le vocabulaire abstrait d'une expérience inconnue. Moi, je lisais tout cela sans bien comprendre, comme devant l'obélisque à Louxor, les soldats regardent les signes humains d'idéogrammes indéchiffrés. Des choses pourtant toutes simples, sans entendre, par la campagne le printemps détrempé, sans voir les villes de meeting pleines à déborder d'une passion qui recommence. Et la débâcle, et les chansons.
Non partir, non partir.
Fuir, là-bas, fuir.
Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. C'était un petit cheval blanc, tous derrière, c'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui, devant.
Il n'est pas encore revenu, mais dans la nuit qui est entrée, la pendule, les bras en croix, s'est arrêtée.
Fuir, là-bas, fuir.
I can't stop, don't care. Quand on lose the car, on tapis, don't stop, baby.
Le voyageur imprudent.
Toute mon enfance a rêvé dans les atlas aux cartes hospitalières. J'ai imaginé le dernier Mohican près de la case de l'oncle Tom. J'ai vu les placers du Sacramento et les saloons où les femmes crachent par terre. Et les cowboys qui sucent en selle leurs dernières gouttes de rhum. Les chutes du Niagara, les abattoirs de Chicago, le pont suspendu de Brooklyn. La lune de Chateaubriand sur les forêts bleues du Méchacébé, les visages pâles au crépuscule, couleur de crime et d'aubergine, les cliquetis d'éperons quelque part dans l'Arkansas derrière des troupeaux emballés, les Indiens avec des plumes à effeuiller comme les marguerites, les Indiens manieurs de tomahawk et chasseurs de têtes, les forêts impénétrables de Gustave Aimard et de Man Raid, les Quakers barbus dans les villages tristes du Massachusetts, les filles de milliardaires qu'on appelle Barbara ou bien Margaret, les séquoias des montagnes rocheuses débitées à la dynamite. Rien de tout cela, mon enfance, et toi, où étais-tu, où étais-tu? Et tes yeux de premier communiant et le sang rose de tes lèvres, et les ramures de tes mains aux branches encore dans la sève, vie infinitésimale confiée à quel aïeul inconnu? Où étais-je, qui donc portait mon devenir? Étais-je, comme le chêne tout entier vit déjà dans le moindre gland? Comme un peu de pollen contient des saules pour mille ans? Comme les nuages charrient déjà la blancheur éclatante des neiges? Et toi, ma mère, au cœur si doux, tu n'avais pas encore de cœur. Nous n'étions pas encore, mais pourtant nous étions déjà au monde. De siècle en siècle, d'heure en heure, de femme brune en femme blonde, nous fûmes ensemble, et peut-être un doux vieillard aux mains de labeur dans quelque village au bord du soir portait déjà nos cheveux blancs. C'était au temps de ce temps-là aux clairières de la Wallonie. Avec le bruit de l'eau, avec le bleu du ciel, avec trois fleurs flétries. Dans la vallée, le ruisseau coule désespérément comme notre vie. Trois fleurs, trois minutes, trois siècles, désespérément. J'écoute le murmure des hommes aux fourmilières des ergastules. Il arrive de si loin à travers les pays, les âges, les générations. Tous les bruits de forge de Détroit vibrent déjà dans la chanson qu'un petit mousse du dauphin chantait à l'heure du crépuscule. Il y a 32 ans que Christophe Colomb a traversé l'océan.
Positionnement urgent sur ligne passé futur, corps à corps avec le yin-yang, apaisement cicatriciel des deuils mal faits, absence-présence réglable, big bang intérieur et son cri, retour inside avec contrôle fort da, retour et dépassement figure du père en réincarnation tangible 24 sur 24, équilibrage corps-âme, joie finale garantie. Vous en avez besoin, vous êtes blanc comme un linge. Vous fumez beaucoup, non? C'est à qui ça de mégot, hein? Au voisin, hein? C'est ça? Ils hurlent, ils tournent, comme des indiens dans la danse du scalp par le vent des tomahawks imaginaires. Le destin, yes, vous êtes avec moi, c'est parti. Ah, il est à l'eau, c'est signé. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, c'est moi, c'est l'entraîneur. Ils tournent. Ils font une ronde, comme une frise de petits personnages en ombre chinoise. Le jour baisse. On n'est plus dans un conte pour enfants, mon vieux. Moi, je vais vous dépiterpaniser, moi. Faut devenir adulte un jour. On va vous doper, mon petit coco. Si vous n'êtes pas capable de le faire à la volonté du sport, vous êtes enfermé sur vos beaucoup trop. Il faut payer, il faut purger de pain cette toxine, dit-il avec une voix d'apothicaire chinois. Venez.
Nous attachons une si grande importance à notre vie que la plupart d'entre nous en arrivent à négliger complètement leur mort. Or, peut-être nous suffirait-il de considérer que la mort fait partie intégrante de la vie pour qu'aussitôt nous prenions un plus juste souci de la nôtre.
Fuir. Là-bas, fuir.
Je m'arrêterais de mourir s'il me venait un bon mot ou une bonne idée.
Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois, 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 je bois.
Par cette musique, un coureur qui arrive en premier et lève les bras, tout ça bien évidemment au ralenti, après temps, après coup. Ou alors le coup d'un drapeau d'une nation quelconque sur une planète quelconque, que personne n'aurait foulé, ou alors peut-être un chien déjà, ou un chimpanzé. En tout cas, imaginez un premier, le premier de quelque chose, le premier de la classe, le premier de la classe de sport, le premier tout court qui arrive là, il lève les bras vers nous, il est fier et un peu crevé. Et la musique le soulève, et nous soulève avec lui.
Ah là là, qu'est-ce que c'est beau la gloire. La gloire télévisée.
Parmi des millions d'hommes, dans un port chinois abandonné des vaisseaux. Je voudrais que mon chant vous parvienne anonyme et touche doucement des amis inconnus. Ce soir, je suis vivant dans une cité chinoise. Le ciel noir est rempli de funestes présages. J'écris à la clarté jaune d'une lampe à huile dont jadis se servait un vieux sage. Sans doute fumait-il l'opium sur sa couche, dans sa chambre fermée aux clameurs de l'Empire, au fond d'un yamen dans une rue étroite d'une ville murée, oubliée des soldats. J'ai remplacé la mèche et renouvelé l'huile, mais la lumière est là et sa douceur fidèle. J'ai mon opium plus pur et plus tenace, et le rêve de l'homme est plus grand que le ciel. Car j'ai compris, mon Dieu, qu'il n'y a rien à comprendre, que tout se contredit.
J'aurais pas dû mettre un habit. C'est une erreur. Je dois repenser l'habillement. Je suis pas assez souple. Le plastron m'interdit de respirer à fond. Les chaussures trop bien ajustées ne me donnent pas la couche d'air élastique qu'il y a aujourd'hui dans les chaussures modernes. Manquent les crampons en métal qui permettent de rester accroché calmement sur ce mur. Le camélia à ma boutonnière est énorme et son odeur aussi. Essayons de rassembler ces pour les enterrer, tout mettre en tas pour les annuler en vitesse, un résumé pour les détruire d'un coup, comme quand on revit en accéléré le film de sa vie juste avant de mourir. Un millefeuille s'écrase dans mon cerveau. On verra plus tard qu'il faudra faire l'équivalent avec les choses aimées, un monument qui grandira. On s'en occupe à plein temps. On travaille. On ramène des tas de choses trouvées à l'extérieur. On les colle. Il faudra acheter l'appartement du dessus et percer un trou dans le plafond pour continuer. Ça augmente. Musée sonore d'être aimé, catalogue de paroles dans l'air, c'est si loin qu'il faudrait un baobab. Un monument aux morts, maison.
Mon cher André Dupont, merci de votre carte. Votre douce tartine est mère de ma tarte. J'ai tant aimé les arts que je suis artilleur. Il a fait bien mauvais, aujourd'hui c'est meilleur. L'artillerie est l'art de calculer les angles. La cavalerie, celui de bien serrer les sangles. Voilà tout le secret de la guerre où nous sommes. Le reste est dans la joie et la vertu des hommes. J'ai sur un grand cheval fait 6 heures de route, genoux en sang. Mais que voulez-vous que ça foute? Tant d'hommes sur le front meurent en ce moment que c'est un vrai plaisir de saigner seulement. Il vente, il fait un froid de loup, la nuit est claire. Écrivez-moi souvent, Guillaume Apollinaire.
Wow, wow. Wa 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 wa.
Il était une fois une dame qui s'appelait Loisel et qui aimait les oiseaux. Même que c'est vrai et que c'est ma copine. Et si nous nous voyons moins, c'est la vie, que voulez-vous. Les chemins parfois se croisent et d'autres fois divergent, et divergent, c'est beaucoup pour un seul homme.
Auguste Strindberg, Le songe. Mais je m'en vais. À l'heure de l'adieu, quand on quitte un ami ou un lieu cher, vient le regret de ce que nous avons aimé et le remords de nos défaites. Oh, maintenant je sens toute la douleur d'être. Et c'est donc ça, être homme. On a même un regret pour ce qu'on dédaignait. On a même un remords pour nos victoires. On veut partir. On veut aussi rester. Ainsi le cœur est déchiré en deux, et l'âme est tiraillée, écartelée par la contradiction, l'indécision, la disharmonie. Adieu.
Thank you.